Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Bienvenue chers auditeurs, je suis très heureuse de nouveau de vous accompagner ce soir jusqu'à 1h du matin dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes confortablement bien installés pour passer ces 2 heures ensemble. La libre antenne, c'est votre émission. Nous avons commencé à faire connaissance et je tiens vraiment à vous remercier pour votre bienveillance. Nous avons reçu beaucoup de réactions hier suite aux différents témoignages et je compte sur vous ce soir pour qu'il en soit de même. Venez partager ce que vous vivez actuellement ou avez vécu car libérer sa parole est une des clés pour se sentir un peu mieux. Ce soir, d'ailleurs, je vous propose d'avoir une pensée de soutien pour tous ceux qui vivent un deuil. Nous sommes là pour vous apporter du réconfort, une écoute ou une solution et la suite vous appartient. Appelez-nous en direct au 3921 pour nous joindre par SMS composé le 739-21 en commençant par le mot « nuit » et par mail libreantenne@europe1.fr. Catherine et Jules vous attendent au standard et c'est le toujours très sympathique Andreas Papazian qui réalise l'émission de ce soir.
La libre antenne sur Europe 1. Sana Blanger.
Avant de recevoir notre premier auditeur, je vous rappelle le thème de demain. Nous aborderons ensemble la passion. Passion du jeu, passion pour une personne, passion pour un objet. En clair, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Ou encore, jusqu'où êtes-vous allé par passion? Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au 3921 ou par mail libreantenne@europe1.fr. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Comment ça va?
C'est Sarah, c'est ça?
C'est Sana.
Non, parce que je... Sam.
Sana. S-A-N-A.
Sama. Ou alors voilà, j'ai horreur d'écorcher les prénoms. Moi.
Alors, si vous avez horreur d'écorcher les prénoms, je vais vous l'appeler parce que là, vous m'appelez Sama. S-A-N de Noël A. Sana.
Ah, Sana.
Voilà.
D'accord. Bon, je vais dire une petite plaisanterie. Vous m'aurez dit thorium, j'aurais dit sanatorium.
Oh, vous savez qu'on ne me l'avait jamais faite?
Ça m'est sorti comme ça.
C'est pas grave.
Bon, au moins vous avez le sourire, c'est
toujours,
super.
Toujours, Christian, toujours.
Bon, alors, faut d'abord que je me présente. Je m'appelle Christian.
Oui.
Je suis non-voyant de naissance.
Oui.
En fait, c'est la couveuse qui m'a cramé les yeux, on va dire.
Ah.
Je suis né prématurément.
Et ah, je suis désolée.
Les caméras ne fonctionnent plus. Donc... je le prends avec humour, parce que finalement, j'ai jamais vu, donc ça me dérange pas. Enfin, il y a des inconvénients, bien sûr.
Oui. Bon, après, bon. Vous êtes...
Mais à part ça, non, ce qui m'a plus dérangé, c'est le problème dont je vais vous parler.
Dites-nous.
J'ai entendu une charmante personne, il y a quelques jours, qui parlait de son abstinence vis-à-vis de l'alcool.
Oui.
Et qui, suite à diverses relations conflictuelles, aurait repris. Voilà, je ne me rappelle plus son prénom, je suis désolé.
Oui.
Et je voulais dire que ça m'est arrivé.
Oui.
C'est-à-dire que, il y a quelques années, j'ai eu une déception amoureuse.
D'accord. Il y a quelques années, il y a combien de temps?
Ouh, ça remonte à une trentaine d'années.
D'accord.
Alors à l'époque, évidemment, j'étais chez ma petite maman, mon petit entourage. Je ne pouvais pas, j'étais plus jeune. Mm. Je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse y avoir des relations comme ça, conflictuelles. Pour moi, c'était impensable. Et puis ça s'est mal terminé. Enfin bref. Au début, quand j'ai commencé à boire de l'alcool, hein,
oui.
C'était festif, c'est-à-dire que bon, c'était pas tout le temps déjà. puis petit à petit, à force de me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que, enfin bon, je me trouvais tous les défauts possibles, voilà. Et là, je suis tombé dedans, quoi.
Et est-ce que vous l'aviez vu venir ou pas du tout?
Non, pas du tout.
D'accord. Et ça,
pas du tout.
Ça a glissé au fur et à mesure, ça a pris combien de temps?
Ah, mais pendant 2-3 ans, ça, évidemment, ça m'arrivait de boire un petit truc de temps en temps, mais c'était pas systématique, quoi.
D'accord.
Alors après, ce que je faisais, je m'enfermais dans une chambre, notamment, et puis je buvais tout ce que je trouvais, quoi.
Et tout ce que vous trouviez, c'était quoi?
Oh, ben la plupart, c'était, bon, c'était du rosé, mais j'en buvais beaucoup.
Ouais, ça pouvait aller jusqu'à...
Je sais pas si vous connaissez, mais vous savez, les fameux cubis, là, les...
Oui.
Ben, le cubi, c'est la journée, hein.
D'accord.
Donc, mais j'en étais conscient.
Mmh.
Parce que ce que je voulais dire aux auditeurs et aux auditrices et aux auditeurs, c'est que malheureusement, l'alcool est un excellent... anxiolytique, au début.
Oh que oui, ça nous met dans des états, effectivement...
un peu euphoriques, quoi.
Oui, c'est ça.
Mm. Et puis après, bon, ben, c'est l'escalade.
Et oui.
Et puis, d'ailleurs, je suis toujours sur traitement. Hein.
D'accord.
Je suis toujours en traitement qui s'appelle, mais je pense que vous connaissez, je ne sais pas si je peux le dire, qui s'appelle Aotal.
C'est pour toute la vie?
On me l'a pas précisé, les médecins qui me suivent me l'ont pas précisé.
D'accord.
Mais je pense que oui.
Oui.
Parce que je suis toujours à l'affût de me dire, d'abord j'évite tout ce qui est relations conflictuelles.
D'accord.
Parce que c'est ça que j'aime pas. Je supporte pas, en fait.
Donc,
je supporte pas.
Vous êtes un grand sensible et...
Ah ouais. Alors ouais. Ça, c'est mon gros problème. Voilà. Mais je suis aussi quelqu'un de direct, c'est-à-dire que je préfère dire du bien. Il y a des moments, je me dis, au lieu de dire ce que je pense carrément de certaines relations, je m'enfermais, à l'époque, je m'enfermais et je buvais, quoi.
Oui.
Donc, c'était ça. Et bon, là, pour l'instant, je touche du bois, comme on dit.
Alors, je touche du bois avec vous.
C'est gentil. Et donc, je me suis réfugié dans la musique, car je suis musicien.
Oui.
Tout ce qui est chanson, sketch, tout ça. Voilà. Heureusement pour moi, j'ai pu avoir un entourage où j'ai pu faire des soirées. Mais je ne buvais pas, là. Je ne buvais pas. Mais c'est vrai que j'ai eu des périodes très dures.
Vous avez bu pendant combien de temps, Christian?
Plus d'une dizaine d'années.
Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, là, ça va plus du tout?
À quel moment ça ne...
Ça ne va plus du tout.
Ben, quand ça va plus du tout.
Oui.
Ouais, mais quand je m'engueule avec une personne, que je trouve ça ridicule d'ailleurs dans la plupart des cas.
Alors, j'ai mal formulé ma question. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, il faut que j'arrête, ça va plus? Que vous arrêtiez de boire. À quel moment est-ce que vous êtes dit, je vais arrêter de boire?
Ah ben, c'est... pardonnez-moi, j'ai pas compris.
Mais je vous en prie.
C'est un déclic, en fait. Parce que je me suis dit, déjà, il faut faire le tri.
Ouais.
Dans les relations.
D'accord.
Ce que j'ai fait, ça a été ma façon de, je vais dire, de boire. Ah. Donc, parce que ce que je supportais pas, c'est que je disais aux personnes que je côtoyais, si je dois tutoyer, donc si tu viens me voir et puis que j'ai bu, si je dis des âneries, hein, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de violence physique, verbale, non, mais enfin je disais un peu n'importe quoi, je mélangeais tout, enfin bon, n'en prends pas cas. Donc elle me dit ok, la personne me dit ok, et puis quelques jours après, oui, t'as bu, etc. Enfin, ça je comprenais pas.
Ouais.
Parce que je préviens la personne. Si encore j'aurais bu en cachette, comme je sais que ça se fait, Non, non, moi je me cache absolument pas. De toute façon, c'est pas à peine de se cacher. Quelqu'un qui a bu, ça se voit. Je veux dire, bon.
Oui, c'est sûr.
Donc, inutile. Alors, je dis, je mettais au parfum dès le départ. Mmh. Et puis, mais ce que je supportais pas, c'est qu'après, c'est... il y en a qui sont suffisamment intelligents pour s'en servir. Et oui, t'as bu, etc. Bon. Et ça, je supportais pas.
Ouais.
Et bien souvent, ça me faisait replonger.
Mmh.
Parce que. Si moi, je. Personnellement, j'ai croisé des gens qui consommaient de l'alcool. Hein. Mais je n'ai jamais porté de jugement. J'ai jamais dit. Etc. Bon, l'avantage, c'est qu'étant aveugle, je ne conduis pas, donc je n'ai pas ce problème-là.
Ouais.
C'est ce que je me dis. Ou c'est ce que je me disais, c'est ce que je me dis toujours. Mais je suis pas à l'abri de replonger. C'est pour ça que j'ai fait le tri. Voilà, bon, j'ai.
Vous avez fait le tri dans votre entourage?
Oui, oui, il fallait là, il fallait.
Parce que vous aviez des amitiés avec lesquelles vous partagiez la fuite en avant en prenant beaucoup d'alcool, c'est ça, en buvant de l'alcool?
Ouais, j'en ai eu deux ou trois, mais une fois de plus, à l'époque, c'était festif, c'était pas...
Ouais, c'était mondain, le côté mondain, c'était
pas,
en fait.
Je sais pas si on peut appeler ça mondain, parce que...
Festif, mondain.
Mais c'était pas compulsif, quoi, c'était pas...
On crée des événements pour pouvoir boire?
Non.
Non?
Non.
D'accord.
Non, non, j'allais pas dire oui, alors c'est l'anniversaire de machin truc, donc je vais boire, c'est... non. Non, non, c'était... Non, il n'y avait pas... Voilà.
Alors, aujourd'hui, vous vous en êtes sorti? Vous avez fait un sevrage?
Pour l'instant, oui.
Vous vous en êtes sorti comment? Qu'est-ce que vous avez fait, concrètement?
Eh bien, je me suis... Excusez-moi du terme, mais mis en coupe aux fesses. Je me suis dit, bon, la hôtale, c'est bien mignon. OK. Mmh. Mais c'est pas suffisant.
Ouais.
Alors déjà, que c'est plus ou pas plus certaines personnes, j'en suis désolé. D'ailleurs, je leur en veux pas. Hein. Mmh. J'aurais dit carrément ce que je pensais. J'ai vidé mon sac. Avec tous les mots possibles, imagine. Ben, je vous garantis que là, j'ai vidé. Bon. Et ça m'a aidé. Mmh. Ça m'a aidé.
Oui.
Mais je... Comme je disais, comme je vous disais par rapport à cette personne qui parlait là, qui expliquait que ses enfants ne lui parlaient plus, c'est pas étonnant que soit replongé là-dedans, quoi. Enfin bon.
Alors vous avez tenu à nous appeler ce soir pour témoigner de votre parcours. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller ou dire aux auditeurs qui traversent ou qui ont voilà.
Surtout, enfin moi je pense, je vous donne mon avis le plus sincère possible, et Dieu sait que c'est le cas, de croiser des gens sincères, des gens intègres, pas des gens qui vous disent gna gna gna, et puis le dos tourné, non, c'est pas bon.
Oui.
Ça c'est pas bon. Parce que si la personne en question est vulnérable par rapport à l'alcool, eh ben, ou autre, voilà. Ça peut... Ça aussi. Après, personnellement, quand je suis invité, moi, des gens qui boivent de l'alcool autour de moi, ça me gêne absolument pas. Ils font leur vie. Hein.
Oui.
Ils ont le droit, mais ça me gêne pas.
Ensuite, le rôle de l'entourage est très difficile quand on a quelqu'un qui...
Moi non, puisque je n'y vois pas déjà, et puis bon... Ça me gêne pas.
Je parlais de l'entourage quand on a une personne justement qui boit de l'alcool ou qui tombe vraiment dedans. C'est pas évident parce qu'il faut être ni complice ni moralisateur.
Mais oui, parce que très souvent, j'ai remarqué pendant ce parcours que je n'avais pratiquement qu'un entourage de gens qui consommaient.
Mmh.
Et quand... j'allais dire, je me suis calmé.
Ouais.
C'était plus le même entourage. J'ai remarqué ça. Voilà. Et mais moi, ça, personnellement, enfin moi, j'aime pas dire moi, ça a été uniquement sentimental. Je suis un grand sentimental.
Alors, en parlant de sentimental, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu rencontrer enfin quelqu'un?
Oui.
Ah, très bien.
Oui, je suis avec une personne depuis 30 ans.
Depuis 30 ans?
Ouais.
Super.
Mais elle a connu mon état, hein?
Oui. Et elle est restée
mon seul
près
état.
De vous. Et elle est restée près de vous. C'est.
Et elle m'a jamais dit.
Admirable.
Ouais. Non, mais je tire mon chapeau parce que franchement, ça ne va pas être évident. Mais elle, par contre, ne boit pas.
Mmh.
Enfin, d'alcool, en tout cas. Donc, déjà, ça aide. Et. Oui, je sais pas. Ce que vous venez de me dire tout à l'heure, je sais pas, ça m'est jamais venu à l'idée, le fait de. Non. Si j'ai pas envie, entre guillemets, de boire, et ben, de l'alcool, ben, non, j'ai pas envie.
Alors, vous disiez aussi tout à l'heure que vous évitiez les conflits. Parce que
bah,
vous aviez. Ouais. Alors, comment vous faites pour éviter les conflits?
Ben, ça, je me fous un pétard et puis ça part en vrille et puis ça m'arrange pas.
Ouais.
Soit je m'isole et je bois.
Encore? Non.
Non, bah pour l'instant. Maintenant, je reste toujours sur le qui-vive, quoi, en fait. Je me dis, bon, mais tant que je tiens, je tiens. Et puis, c'est vrai que l'entourage que j'ai actuellement, ce sont des gens quand même qui le savent.
Ouais.
Que ça peut. J'ai pas dit que ça allait, et puis tant mieux. Je pense que je m'en suis bien sorti parce que j'aurais pu avoir des problèmes psychologiques, etc. Enfin, des gros problèmes, quoi.
Bravo, Christian. Vraiment. Moi, en tout cas, je vous félicite. C'est admirable. Nous avons également reçu le témoignage de Martine, qui, elle aussi, a arrêté de boire il y a 27 ans. Donc, bravo à vous. C'est vrai que c'est un parcours...
C'est super pour Martine. Moi, je la félicite.
Bah, oui. Donc, c'est vrai que c'est tellement... Là, c'est de la résilience, donc un grand bravo à vous. Merci également de venir partager cette expérience et
je pense
et
que c'est au cas par cas, en fait.
Comment ?
C'est une histoire de contexte.
Ouais.
On ne peut pas généraliser. C'est vrai que c'est encore tabou, hein, l'alcool.
C'est très tabou. Ne serait-ce que déjà, le parcours, la prise de conscience est très compliquée pour quelqu'un qui boit. On est dans le déni. Ensuite, il y a l'entourage qui souffre beaucoup, enfin tout le monde souffre, c'est très très compliqué. Et puis on n'est pas à l'abri de rechuter.
Dire à la personne qui boit, de leur qu'elle a à jeun, de dire ça me fait souffrir, je comprends. Mm. Moi je le comprends. Mais fut un temps, je ne veux pas non plus trop spoiler l'antenne, fut un temps, j'étais très bien à l'alcool. Hein. J'étais très bien, j'accusais personne, je savais très bien, j'étais tout à fait conscient que, enfin, sauf quand j'avais trop bu, bien sûr.
Et vous
mais
avez...
j'étais tout à fait conscient que, de toute façon, ça allait se passer comme ça, et que. Parce que je me connais, enfin, j'ai appris à me connaître, quoi.
Alors, vous avez entièrement raison, parce que la période de sevrage est parfois bien plus douloureuse et plus compliquée que toute la période où on est dans l'alcool, en fait. Donc, de se sortir de là, c'est plus compliqué que d'y rester, au final. Donc, c'est en cela que c'est vraiment. Le terme de résilience, c'est admirable. Et vous avez eu cette chance-là. Tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Et donc,
Je le comprends.
Ouais.
Je le comprends. Et d'ailleurs, je voulais lancer une petite bouteille à la mer,
ouais.
Pour certains.
Une bouteille, vous
S'il
êtes sûr.
Il y en a qui veulent dialoguer avec moi.
Oui.
Ou s'ils se sentent seuls par rapport à l'alcool ou des choses comme ça. Je peux laisser mes coordonnées et à ce moment-là, ça ferait plaisir que je puisse leur parler.
Eh bien, ça tombe très très bien puisque nous venons de recevoir le message de Louise. Louise
oui.
qui rencontre le même problème, enfin du moins qu'a rencontré un problème aussi avec l'alcool et qui n'a plus de vie sociale. Donc, si Christian, voilà, votre,
voilà.
C'est votre Alors, bouteille à la mer, ça tombe très très bien. Donc si on a la possibilité d'avoir les coordonnées de Louise et de lui communiquer les vôtres, ce serait formidable de l'aider là-dessus, ce serait génial.
Oui, bon, puis en plus, bon, mais s'il y a des gens qui m'appellent, tels que Madame Louise, comment c'est ça, qu'elle ne s'inquiète pas, il n'y aura aucune grossièreté. Par contre, il y a la musique, il y a les sketchs, il y a les pianos, il y a tout ça.
Oui.
Voilà, comme ça, si ça peut l'aider,
Si elle est d'accord, Louise, si elle nous entend écoutez, encore, si elle nous écoute.
Il n'y a aucune ambiguïté, ça je le précise évidemment.
Oh ben, c'est... Merci de le préciser en tout cas, mais oui. D'accord, d'accord Christian. Bon, eh bien en tout cas, un grand merci pour ce témoignage.
Écoutez, c'est moi.
Et je vous souhaite vraiment de très très belles choses à vivre.
Mais ouais. À vous aussi, à vous tous, et puis continuez comme ça, c'est adorable votre émission.
Merci.
Remarquez, c'est normal, parce que vous aussi, alors c'est normal.
Vous avez retenu mon prénom ?
Sana.
Bravo !
Thorium.
Bravo, ben, merci.
Excusez-moi, c'est pas vexant. Je
non, mais pas du tout, Christian.
Bonne... Je me rappellerai.
Merci beaucoup. Bon. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous, et puis courage pour ceux qui... Bon courage.
C'est adorable, merci.
Merci à vous.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute. Europe 1, la libre antenne.
Sana Blanger.
Bonsoir Elena.
Bonsoir Sana.
Comment ça va ?
Merci. Ça va. On essaye.
Bon, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, moi, j'ai en fait une question, disons, un grand tracas. C'est que, et une obsession, c'est que je souhaite retourner depuis maintenant presque 10 ans. Je souhaite retourner dans mon pays et je me languis de retrouver ma terre d'origine.
Oui.
Comme un vrai immigré veut rentrer chez lui. J'en ai marre d'être ici. J'en ai marre de supporter en fait cette vie française et ce pays français que j'ai jamais aimé. J'apprendrai peut-être à l'aimer un petit peu quand je serai sur ma terre, la terre de mes ancêtres et la terre de toute ma famille qui vit là-bas. Mais en fait, j'ai très très peu de personnes encore qui résident dans ce pays. Mais je me sens comme un réfugié, vous savez, les bateaux qui arrivent, qui accostent, plein de bateaux tous les jours au même endroit. Et je me sens comme ça, comme si j'étais sur un bateau, mais j'arrive pas à accoster. Et seulement, moi, je voudrais prendre le moyen de transport légal et y aller en train. Même si je me sens comme une isolée, j'aimerais y aller en train et puis pouvoir vivre dans mon pays.
D'accord. Elena, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu votre histoire ? Vous êtes arrivée... voilà, qui êtes-vous, Elena ?
En fait, moi, je suis arrivée un peu par obligation dans les années 60, parce qu'à l'époque, il fallait reconstruire pas mal de choses et qu'en Italie, il y avait un chaos indescriptible où il n'y avait plus assez de travail.
Vous êtes originaire d'où, en Italie ?
Je suis originaire du Nord, vers Milan.
D'accord.
Et mes parents sont, enfin, disons, mon père en premier est venu en France et bon, a commencé à trouver du travail, mais toujours dans l'espoir de revenir sur ses terres avec sa femme. En fait, les années ont passé, les études ont suivi, le travail aussi. Et mon père, qui lui croyait dur comme fer à son pays, est retourné dans son pays. Si vous voulez, la France a séparé mes parents, puisque l'un est décédé en Italie, et ma mère est restée en France. Voilà. Et donc moi, je ressens beaucoup l'appel de mon pays, malgré toutes mes années vécues ici. Je ressens cet appel tous les jours.
Vous êtes
je retourne dans mon pays.
Vous
parce qu'ici, c'est que souffrance.
Parce que vous êtes arrivée à quel âge en France ?
Je devait avoir une dizaine d'années.
D'accord.
C'est-à-dire pour ma primaire. Okay. Tout de suite, la primaire.
Et donc, les études se sont bien passées. Enfin, vous avez eu une enfance paisible, qui s'est bien passée, de bonnes... Enfin,
paisible. Une enfance faite de chaque année au retour au pays.
Chaque été ?
Chaque été, voilà. Exactement, oui.
Donc, chaque été était synonyme de retour en Italie ?
C'est ça.
Et... Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être française
de... Non.
Non, pas d'appartenance.
Jamais. Si, juste sur papier, mais ça a été une obligation en fait. On m'a un peu arraché cette décision parce que j'avais réussi à trouver des missions dans le service public français. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, attention, si vous n'êtes pas française, vous n'aurez pas de possibilité de travailler à l'époque. Hein. Vous n'aurez pas la possibilité de travailler dans des administrations françaises. Donc j'ai été obligée, si vous voulez, professionnellement, pour pouvoir avoir des missions de vacation, de rester, s'il vous plaît, d'acquérir la nationalité française. Mais malheureusement, à cette époque-là, la République italienne n'acceptait pas les deux nationalités. Donc j'ai perdu ma nationalité italienne.
D'accord. J'entends ce que vous nous dites. Et vous employez beaucoup le mot « obligation ».
Oui.
Obligé de rester.
Mais c'est ce que j'ai oublié, voilà, c'est
voilà.
Ça.
Alors,
c'est pour ça que je n'en peux plus. C'est cette obligation qui m'a fait, si vous voulez, passer des années de souffrance ici, en France.
Ah, de souffrance ?
Souffrance. France, pour moi, la France, ça rime avec souffrance. Et donc, je veux plus de ce pays. J'en peux plus.
Alors.
J'en peux plus parce que j'ai vécu des années professionnelles trop lamentables et trop hypocritement françaises que je déteste. Donc voilà pourquoi je déteste la France et que je veux retourner dans mes racines, dans mon pays.
Alors, de ce que j'entends, pour vous, la France, les Français sont hypocrites.
Mais c'est, si vous voulez, c'est leur manière de parler avec leurs adjectifs qualificatifs. Ils en emploient plein. Il n'y a que ça. J'ai trouvé vraiment... Trop de perversité ici.
Oui.
Voilà. Et c'est pour ça que des fois, la seule chose que je trouve de bien, c'est quand Molière disait trop de perversité règne dans ce siècle où nous sommes. Et surtout ici. C'est ici que je connais cette perversité.
Alors, moi, je voudrais vous parler de l'Italie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous y installer un peu plus que un mois pour les vacances?
Un peu plus que un mois, tous les ans, non. Mais j'ai quand même fait pas mal de démarches pour trouver un travail. Et le problème, c'est que là-bas, ça marche beaucoup de bouche à oreille.
Vous êtes en train de me donner un défaut chez les Italiens. Vous êtes en train de me dire qu'en Italie, il faut du réseau, sinon ça ne marche pas.
Oui, il faut connaître les gens là-bas.
D'accord.
Il faut connaître les personnes qui vont vous ouvrir des portes.
D'accord.
En France aussi, hein. En France aussi, on vous ouvre des portes quand vous connaissez trucs, machin. Non, c'est pas un défaut de l'Italie. C'est pas un défaut de l'Italie.
Vous vous doutez bien que je vous provoque un peu, là.
Oui, je m'en doute, mais je garde mon calme, Anna.
Elina, l'hypocrisie, c'est universel. Vous vous doutez bien que ce n'est pas uniquement aux frontières de la France.
Oui, mais là c'est quand même une élégante hypocrite, la France. Hein.
Élégante.
N'est-ce pas? Élégante hypocrite, je rajoute.
Moi, j'aimerais surtout,
mais élégante.
Moi, j'aimerais surtout essayer de comprendre... Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez une vision si négative et que vous voyez ce verre à moitié vide?
Pourquoi? Parce que...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Sur mon parcours professionnel, j'ai vu autour de moi beaucoup de gens négatifs et hypocrites, je répète.
D'accord.
Je me répéterai souvent avec ce mot. Hein.
D'accord.
Ça, on le voit quand on est
d'accord.
entouré de personnes qui ne sont pas sincères, franches,
d'accord.
et qui vous font croire à des choses, qui vous font boire des choses complètement fausses.
D'accord, je comprends mieux. Donc, il y a une grosse déception de votre part, mais qui est liée manifestement à une succession de... Alors, pas d'échecs, mais de fausses promesses, ou de promesses non tenues dans votre parcours professionnel, manifestement.
Surtout, oui. Dans le parcours professionnel, ça a été... Donc, j'ai vu de tout.
Donc, on ne peut pas résumer et tout de suite se dire que parce que ça s'est passé comme ça, c'est l'ensemble de toute la France. On est d'accord, Elena?
Mais enfin, j'ai quand même eu pas mal de missions, hein.
Oui.
Dans le public et le privé.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai pas travaillé que dans le public. J'ai aussi vu le privé. Et c'est exactement pareil.
Vous avez changé combien de fois d'entreprise?
J'ai dû changer une quinzaine de fois.
Une quinzaine de fois?
Mon parcours, oui.
Et est-ce que, éventuellement, vous pouvez nous dire, la plupart du temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez les entreprises?
En fait, déjà, dès l'entretien, on vous donne certaines phrases qui vous laissent à penser que ça sera bien, que vous serez heureuse. Et quand vous êtes dans le pragmatisme du métier, vous vous rendez compte que autour de vous, vous avez des gens négatifs.
D'accord.
Et que ça marche pas. Ça marche pas. Ou alors vous êtes négatif comme eux et hypocrite comme eux, ça marchera. Mais si vous montrez votre sincérité et que vous êtes très sensible, on vous écrase. Et bon, j'ai quand même un défaut, je suis très susceptible.
D'accord. Un parcours chaotique, des déceptions. Vous me dites que vous avez eu affaire à des gens négatifs. Là, j'essaie de voir avec vous quel a été, vous, le comportement et l'attitude que vous avez pu avoir vis-à-vis de ces gens.
Ben voilà, je vous l'ai dit, ma faiblesse chez moi, c'est que je suis très susceptible. Je supporte pas qu'on change de visage comme ça, alors qu'on me montre au départ que tout va bien.
Ouais.
Et qu'après on essaye de me casser. Ça, je ne supporte pas.
Je comprends.
Ça me détériorise, ça me dévalorise. Et pourtant, j'ai un grand potentiel.
Ah, mais ça, j'en suis certaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Elena, comme métier?
Aujourd'hui, je me suis reconvertie dans la gouvernance.
D'accord.
Et c'est pour ça que j'aimerais faire ce métier en Italie, puisque je suis bilingue.
Et comment ça se passe aujourd'hui dans votre métier?
Je sais qu'il y a de fortes chances d'obtenir un poste en Vallée d'Aoste.
En Vallée d'Aoste.
Où ils sont bilingues. Hein, le pays est bilingue là-bas, la ville d'Aoste. C'est une ville où on parle l'italien, mais on comprend très bien le français.
D'accord. Oui, j'étais en train de me dire qu'effectivement, si de toute façon vous avez ce qu'on appelle le mal du pays, j'imagine que la solution que vous avez déjà envisagée, c'est de trouver un poste en Italie. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus de temps pour pouvoir échanger sur la façon dont vous vivez vos expériences professionnelles. Et surtout, je pense que c'est surtout la source qui vous fait, enfin, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes presque aigri. Il y a quand même des choses positives dans votre quotidien. Est-ce que vous avez des amis françaises en France? Est-ce que vous avez des points d'attache, Elena?
Non.
Pour quelle raison?
Parce que je ne fais pas confiance.
D'accord. Donc
j'ai souvent eu raison de ne pas faire confiance.
Donc il y a beaucoup de méfiance de votre part.
Beaucoup.
D'accord. Moi j'aimerais...
Je veux...
Oui, allez-y.
Pardon.
Non, c'est vous.
Il me faut absolument aussi, une fois dans le pays, rendre cette carte française et reprendre au plus vite ma carte d'identité italienne.
J'ai juste une crainte pour vous, c'est que vous soyez encore déçu si jamais vous allez en Italie et que vous reviviez la même chose. Vraiment, je me dis, qu'est-ce qui se passe ensuite si vous êtes déçu sur le plan professionnel? Qu'est-ce que vous allez vous dire, Elena?
Mais je ne peux pas être déçue parce que je serai déjà dans mon pays que j'aime, plus que tout au monde. Donc je ne peux pas être déçue.
Alors, partez vite.
Même si je ne trouve pas encore d'emploi, ce n'est pas grave. Mais,
ouais.
mais là, c'est la fin du monde ici en France. Hein. La fine del mondo. Je comprends bien, hein, ça n'a la fine del mondo.
Oui, bah oui. Non, vraiment, Elena, dans ces cas-là, je vais vous encourager, effectivement. De toute façon, s'il y a de la souffrance, si vous pensez franchement que cette vie n'est pas faite pour vous, eh bien, effectivement, allez jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. C'est une expérience que vous vivrez également. J'espère que ça se passera vraiment très, très bien pour vous. En revanche, il faut être vraiment armé. De toute façon, le travail, ça n'est jamais facile. Si c'était facile, on ne nous paierait pas à le faire. Donc, j'espère que ça se passera bien, dans de bonnes conditions. Mais il était une évidence qu'aujourd'hui, vous avez cette croyance en vous que le meilleur est ailleurs. Donc, allez-y.
Oui, je vais aller dans mon pays parce que ce pays où je suis là, il n'est pas fait pour moi. Il n'a jamais été fait pour moi, même adolescente et
ouais.
Pour le reste de... Voilà, jusqu'à l'échelle où je suis en ce moment. Ce pays n'a jamais été pour moi, si vous voulez, que souffrance, ce que j'ai dit au début. Et ça se confirme dans mon parcours.
Alors, c'est presque comme une histoire d'amour, j'ai envie de vous dire. Et pour quelle raison vous n'êtes pas allé rejoindre cet amour plus tôt, finalement?
Oui, mais ça, c'était justement pour des questions... C'est-à-dire, j'ai tellement donné de crédit aux entreprises ici en France que je me suis laissée faire avoir, mais plein de fois. Parce que j'y croyais toujours. Alors, on me dit, oui... ne baisse pas les bras, continue à chercher, etc. Vous savez, les fameuses phrases hypocrites qu'on nous dit toujours. Mais t'inquiète pas, ça ira mieux. Le baume qu'on nous met sur les blessures. Mais non, ça sert à rien, ça. C'est pas la peine de se leurrer. Et donc, voilà. Et voilà, vous voyez bien dans quel état est la France, là, en ce moment. J'ai pas besoin de vous donner d'explication. Ok, tout va à volo, n'est-ce pas? Mais moi, je préfère quand même retourner dans mes origines, je me sentirais mieux. Mais écoutez,
oui.
Anna,
oui,
tout le monde veut y aller en Italie, tout le monde veut débarquer en Italie, c'est pas possible, et tout le monde sauf moi. Moi, ce que je veux faire, c'est comme mon père, y aller par les voies légales.
Oui, c'est ce que vous disiez. Ben,
mais, voilà.
Mais encore une fois, Elena, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire, bon sang?
Ben, c'est des questions aussi, malheureusement, financières, en tout premier. C'est des questions financières. Et bien sûr que je serais déjà depuis longtemps là-bas. J'avais eu les moyens, j'y serais depuis bien longtemps. Je crois que je ne vous aurais pas appelé ce soir.
Oui.
En tout cas, je vais continuer dans ma voie et rester toujours dans cette même idée, dans cette même optique. Retourner dans mon pays, retourner en Italie.
Ouais.
Parce que je crois que j'y ai quand même droit. Hein. C'est quand même la terre de mes ancêtres et l'endroit où je suis née. C'est pas tant le fait d'aimer les gens, non. Moi, c'est le pays que j'aime.
Bon.
C'est la péninsule que j'aime. Voilà. Et on aime quand on aime un endroit, on veut y vivre. Il y en a qui aiment bien le Midi, d'autres la Bretagne. Non, moi, c'est l'Italie. C'est passer la frontière.
D'accord. C'est l'Europe, hein. C'est aussi.
Non, mais pour moi, ça reste l'Italie. Oui, c'est l'Europe, si on veut.
Bah oui.
Mais bon, mais moi, ça reste l'Italie.
D'accord. Bon.
Voilà. Voilà, Sana, vous savez tout.
Ou presque.
Non, vous savez tout, D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire.
Bon, bah écoutez, le principal, c'est que vous réalisiez enfin votre rêve. Si c'est d'y aller, vraiment, je vous invite effectivement à chercher un travail. J'espère que ce sera dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et que vous profiterez vraiment de l'Italie qui vous est si chère à votre cœur.
Oui, elle reste très très chère à mon cœur et il me tarde de l'approcher.
Ouais, je regrette juste que vous ayez cette vision négative de là où vous êtes aujourd'hui, de cette terre d'accueil et qui est la France. Voilà.
Oui, ben écoutez, c'est, je vous
surtout
parle
pour le travail.
Tout
hein.
à fait. Mm. Oui, mais pour le travail et pour y avoir vécu. Je vous parle de ce que j'ai vécu et de ce que je ouais, connais.
D'accord.
Je vous aurais pas dit autre chose. Donc, en étant en Italie, peut-être que j'apprendrai à aimer un peu la France.
J'espère. On l'espère tous.
Merci, Sana, de votre écoute.
Et bonne
continuation.
Merci à vous aussi.
Au revoir et bien des choses à votre équipe.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Prenons l'antenne en direct sur Europe 1, pardon, je suis un petit peu émue, beaucoup, il y a eu beaucoup de réactions en fait suite au témoignage d'Elena. Et Zoé est en direct avec nous et elle a souhaité justement intervenir par rapport à ce qui s'est passé. Zoé, vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir. Alors en effet, j'ai bien écouté Elena. Et j'ai senti surtout beaucoup de tristesse.
Oui.
Et je comprends, en fait, si vous voulez, moi, je suis pas d'origine française. Et plus les années avancent, et moins je me sens française. Alors que je suis arrivée ici, à peu près au même âge que Elena. Je suis arrivée ici, j'avais 9-10 ans aussi. Enfin, je veux dire, ici en France. Et je venais de deux autres pays. Hein. J'avais quand même eu déjà deux autres pays avant. Deux autres langues. Alors, je dirais, dans le sens d'Elena, je dirais que la France, contrairement à ce que l'on pense, est un pays très difficile lorsqu'on y arrive.
Mmh.
À savoir, quand on vient de pays plus latins, plus expressifs, on passe toujours pour une grande expressive et les Français ont du mal à exprimer avec une sorte de spontanéité naturelle plein de choses. C'est-à-dire, c'est pesé. C'est compté, c'est réfléchi. Mmh. Alors ça, c'est très lourd quand on vient d'ailleurs.
Oui.
Quand on vient d'ailleurs, il faut aussi penser qu'on arrive sans bagage, sauf des Américains qui arrivent aujourd'hui qui sont étudiants ou des jeunes d'Erasmus, ça n'a rien à voir avec les générations d'avant où il y a eu de vrais exils et parfois des exils politiques. Donc ce n'est pas simple, on arrivait avec des parents qui n'étaient pas toujours en très bon état non plus. Hein.
Oui, c'est vrai.
Alors, moi j'ai une intégration absolument parfaite, mais je sens qu'il y a une partie de moi qui n'est pas française. Pour autant, retourner dans des pays où j'ai vécu, non. Oui. Maintenant, je me demande si le mal-être un petit peu d'Elena n'est pas aussi, enfin ce que moi je peux ressentir, peut-être d'autres ressentiront autre chose, qui est je ne sais plus trop d'où je suis en fait moi. Vous voyez ? Alors je le gère, j'observe quelquefois les Français avec leur terroir, ils n'en peuvent plus avec leur terroir, et tout ce genre de choses qui évidemment pour quelqu'un qui arrive d'ailleurs ne sera jamais le cas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends.
Il y aura... Moi, j'ai jamais eu ma grand-mère en vacances. J'allais jamais en vacances chez une grand-mère dans une province française. Il aurait fallu que je traverse l'Atlantique, donc ça n'était pas jouable. Mmh. Donc, il y a tout ça, évidemment, qui manque quand on vient d'ailleurs, vous voyez. Alors, la richesse, c'est qu'on parle effectivement plusieurs langues. Moi, je l'ai perçue comme ça. Maintenant, on porte toujours, je ne sais plus quel écrivain disait ça, un peu l'étrange étrangeté. Et on ne se sent pas toujours complètement accepté. Au mieux que l'on se sente accepté, on n'est quand même pas de là. Vous voyez ? Alors, soi-même, on le ressent, mais on vous le renvoie aussi. Soit parce qu'on est brun, soit parce qu'on est comme ci, soit parce qu'on est comme ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis rentrée dans un petit magasin et je demandais au monsieur, au bout d'un moment, je lui demandais d'où il venait. Parce qu'il avait un S très sifflé. Et je pensais qu'il était grec. Et il est devenu furieux parce qu'il m'a dit « On me demande toujours d'où je viens, je suis français. » Et en fait, ce n'est pas si simple. Vous voyez, enfin, je crois qu'on se sent d'ici, de là-bas. En revanche, pour Elena, ce que je redoute, c'est qu'elle pense que cette Italie est rêvée, mais l'Italie aujourd'hui, elle n'est pas dans un bel état économique. Hein. Mmh. Du tout, si on suit, moi je suis l'actualité politique d'assez près, c'est pas si facile que ça. Et je crois que le principal problème, c'est pas tant... c'est que finalement, oui, malheureusement, c'est des générations qui sont un petit peu sacrifiées. Peut-être nos enfants, ils vont se sentir très, très, très français. Mais on se sent parfois d'ici, parfois d'ailleurs. Et si on est de l'autre côté d'une frontière, on a envie de manger du fromage français. Vous voyez, on est... Et il faut accepter qu'on sera comme ça peut-être toujours. C'est tout ce que je voulais dire, voyez.
Merci beaucoup Zoé.
C'est pas tant, mais j'admets. Et ça, il faut peut-être que les Français l'entendent bien, les Français de souche. Moi aussi j'ai une nationalité française. Moi aussi on m'a fait choisir entre deux nationalités. Ce fut un déchirement. Je me suis débrouillée pour plus loin, après 50 ans, pour retrouver mon premier passeport. Mais quand je me sens dans un pays d'origine, je me sens bien un moment, mais après j'en ai marre.
Oui.
Quand je me sens ici, mais si on lit la littérature, c'est le propre de tous les gens qui ont été exilés. Tous les gens ont été dans ce va-et-vient. Et moi, je me dis maintenant, là où j'ai, je me sens parisienne, par exemple, plus que française.
Oui.
Ça peut sembler idiot, parce que je connais pas si bien que ça la France, oui. En fait.
D'accord.
Tout simplement. Et je me dis que là où j'ai des racines, c'est là où j'ai mes enfants. En fait, j'ai pas de racines, mais je me suis dit, je fais mes racines à l'envers, j'ai des branches.
En tout cas, merci Zoé. Merci infiniment pour votre témoignage. Vous l'avez vécu également, donc c'était intéressant d'avoir une approche différente. Merci. Un grand merci,
avec
vraiment.
Avec plaisir. Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1,
Sana Blanger.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Sana.
Comment ça va ?
Je vais très bien, je vous en remercie, enchanté de faire votre connaissance.
Et de même.
Mon sujet est peut-être un peu plus léger que ces sujets qui sont très pertinents et très forts. Je voulais vous parler, vous entretenir, des sites de rencontres.
Les sites de rencontres, d'accord.
Oui,
oui effectivement, c'est plus... C'est un peu plus léger.
Oui, c'est un peu plus léger, effectivement. Ceci dit, j'ai eu quelques expériences. Et ce qui m'a donné l'envie de vous appeler, c'est suite à l'intervention, je pense, de Caroline. Hier, j'ai eu ce genre de situation, mais moi, c'était sur un site, pas comme elle, d'ailleurs, je crois, oui. Oui. C'était l'inverse. À savoir, je vais vous conter ça assez brièvement, à savoir que je conversais avec une dame, nous avions des échanges assez sympathiques, agréables. Nous avions échangé des photos, apparemment tout allait bien, et le numéro de téléphone. Nous sommes rencontrés 2-3 fois, et nous sommes rencontrés aussi à l'hôtel, parce que cette dame ne pouvait pas recevoir, et elle ne voulait pas se déplacer. Et au bout d'un certain temps, je n'ai plus une nouvelle de cette dame, plus de message, plus de SMS. Et finalement, j'ai réussi à savoir que c'était une dame qui était mariée et qui ne cherchait que des aventures.
Alors, juste pour remettre dans le contexte, hier soir, effectivement, c'était le dernier témoignage, c'est Caroline qui nous a appelés et qui nous expliquait qu'elle avait rencontré donc son ami par le biais d'un site de rencontre. Et ça se passait pas super bien, enfin en tout cas, ça sentait pas très très bon pour elle.
Oui, voilà. Ça j'avais bien compris que monsieur, je suppose que monsieur, la maman, c'est peut-être son épouse. Mais bon, après, ça ne m'engage que moi et ma réflexion.
Oui, mais de toute façon, vous n'étiez certainement pas le seul à le penser également.
Je pense.
Oui, ouais, tout à fait, bon, Guillaume. Donc en tout cas, ça vous a donné envie également de venir raconter votre expérience.
Oui, cette expérience. Et j'en ai une autre, mais qui est un peu plus cocasse. Et c'est aussi avec une dame, puisque je suis un hétéro. Donc c'est avec une dame avec qui nous avons échangé aussi des SMS, des photos. Mais jamais le téléphone. Je me posais bien les questions, mais la curiosité a voulu que je rencontre cette personne. Donc nous sommes donné rendez-vous à une terrasse. J'ai vu une grande personne arriver, 1m80 à peu près, les cheveux longs, brunes, et qui est venue vers moi, qui m'a serré la main. Et je trouvais que la main avait plutôt l'air d'une main d'homme. Et effectivement, je me suis trouvé en face d'un travesti qui avait apprécié mes photos, qui avait apprécié nos propos et qui s'excusait de venir parce qu'il espérait que je flash pour lui. Ouais. Alors je lui ai expliqué que moi, c'était pas du tout ma tasse de thé, il l'a très bien compris. Hein. Ouais. Et vous voyez, c'est pour vous dire qu'on rencontre de tout. Et je me suis posé la question parce qu'il y a des sites qui sont très intéressants et il y a l'art et la manière de pouvoir garder et retenir, entre guillemets, le client. Et je me pose la question, je ne suis peut-être pas le seul, est-ce qu'il n'y aurait pas des animatrices et des animateurs derrière tous ces sites de rencontres? Parce que les dames disent que les profils des messieurs sont parfois faux. Et moi, je me rends compte des photos des dames, quand elles en ont 50, quand elles ont 50 ans, elles ont des photos, elles ont 35. Je me pose la question si un jour, elles ne feront pas des photos de la maternelle. Alors, je me pose ce genre de questions. Bon, ceci dit, il faut de tout pour faire un monde.
Ben oui.
Mais je crois que la sincérité des sites, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit si sincère que ça. Et il y en a qui sont bien sûr payants, d'autres qui ne le sont pas.
Oui.
Pourtant, je sors, hein. Je vais avec des amis, je fréquente l'extérieur. J'ai essayé de ce genre de rencontres. J'ai été très pris avec cette dame là qui m'a dit qu'elle était mariée et qu'elle recherchait des aventures. Mais on souffre parce qu'on peut être épris d'une personne, des échanges pertinents. Et moi, je suis quelqu'un de sentimental et sensible. Donc je me suis fait prendre un peu au jeu, quoi. Et ça, je trouve ça pas très, très net et correct.
Deux fois.
Maintenant.
Deux fois de suite.
Deux fois, mais le premier, c'était cocasse, c'était un travesti.
Ouais.
Mais je voulais voir si j'avais pas du tout de numéro de téléphone. Et ça me travaillait un peu, ça me titillait un peu. Je voulais, parce que c'était des bons propos. Puis, je remarquais qu'il n'y avait pas de faute. Tout était au féminin. Il aurait pu se tromper. Non, il y avait des terminaisons, c'était bien au féminin. Moi, je me dis, c'est bizarre, ça. Et quand je l'ai rencontré, quelqu'un de sympathique, on a pris un verre, on s'est salué. Hein. Je ne lui ai pas fait la bise non plus en partant. Il l'a très bien compris, mais bon, voilà quoi. Puis cette dame qui était charmante, bon, j'ai eu d'autres petites aventures aussi, mais bon, c'est pour vous dire que les gens ne sont pas si sérieux que cela, et ça me dérange un peu, quoi. Je trouve qu'on s'investit, on met un profil sincère, des photos sincères, et puis à l'autre côté du miroir, eh bien, on n'a pas la sincérité, on n'a pas le retour, quoi.
Bon, ce qui est rassurant, c'est que toutes les personnes qui sont sur ces sites ne sont sont sincères. Vous l'êtes, vous? Vous êtes quelqu'un de sincère,
je suis,
de sentimental.
J'espère qu'il y en a d'autres.
Eh ben voilà.
Oui, j'espère qu'il y en a d'autres, d'ailleurs.
Mais bien évidemment. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement.
Oui.
Dans mon entourage, d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont rencontré, même, je dirais même, la femme de leur vie ou l'homme de leur vie via ces sites. Donc, c'est que ça fonctionne.
Ah oui, oui, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Peut-être que moi, je ne suis pas sur le bon site, parce qu'il y a tellement de sites, il y en a beaucoup. Maintenant, il faut tomber sur la personne sincère et qui suit son chemin, quoi. Elle dit, voilà, je souhaite ceci, je souhaite cela.
Ouais.
Et puis qu'elle s'y tienne, quoi, par quelqu'un qui joue avec vous, quoi.
Vous n'êtes pas à l'abri. Vous avez entièrement raison. Eh oui. Eh oui, vous avez entièrement raison. Maintenant, ça demande un petit peu plus de temps. Il y a... malheureusement, parfois, un petit critère de sélection à mettre en place. Enfin, peut-être que, voilà, peut-être que avec les deux expériences, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous retenez du coup de ces deux expériences que vous avez vécues? Qu'est-ce que vous ne ferez plus la prochaine fois?
Ce que je ne ferai plus la prochaine fois, vous savez, nul n'est à l'abri. On peut très bien partir sur notre base et se faire aussi très bien, comment dirais-je, vous faites tromper. Parce que je ne ferai plus, c'est de toute façon, maintenant, je prendrai la chose la première, c'est éventuellement d'avoir un numéro de téléphone et d'appeler la personne.
Ouais.
Ça, c'est une chose sûre maintenant, ça, c'est certain. Et puis après, vont rencontrer la personne, mais pas que ça perdure dans le temps. Je pense que si ça perdure trop dans le temps, c'est là où le bas blesse, entre guillemets.
C'est exactement
et
ça.
Et malheureusement, on se fait. Quoi, on est dans un état d'âme, on est dans
du fantasme.
Là, on fantasme
voilà.
un peu.
C'est sûr, exactement
ça. On fantasme tous, mesdames. On fantasme, c'est cela. Et on a hâte de rencontrer la personne, mais bon, faudrait-il encore que la personne qu'on a voulu filer et puis la photo corresponde à celle qu'on va rencontrer, quoi.
Bien sûr.
Parce que là, dans le cas présent, le premier, dans le deuxième cas, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Alors, tout retombe, quoi. Je veux dire, tout retombe. Je dis, là, c'est vrai que. J'ai trouvé ça assez cocasse, mais bon, il a eu quand même l'honnêteté de venir et puis m'expliquer la situation.
C'était.
J'ai trouvé ça quand même franc de sa part, parce que j'aurais pu me déplacer.
C'était
exact. Rencontré personne.
Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. Au moins, il n'y a pas eu de lapin de poser.
Non, hein, non, il n'y a pas de lapin. Donc, déjà,
voilà,
en plus,
donc ça, c'est déjà bien.
Configuré,
c'est
déjà bien. Oui. Mais j'aime beaucoup l'humour, donc j'ai pris le 25e degré. Parce que j'aime beaucoup l'humour. Mais voilà, quoi. Mais bon, je n'ai pas fait de baise-main non plus. Je vous dis, on s'est serré la main. Et il est reparti comme il est venu. Et puis, donc, cette dame, autrement, j'ai eu des rencontres aussi sympathiques. Après, on plaît ou on ne plaît pas, ou ça ne correspond pas à certains critères que nous avons. Et puis, bon, il faut dire que je ne suis pas non plus un premier coq de 20 ans. Donc, c'est sûr que maintenant, on est peut-être un peu plus exigeant, on n'est pas plus. Méfiant, on peut l'être, mais la preuve, vous voyez, je me suis fait avoir.
Bon.
Je pense être quelqu'un de méfiant.
Ce qui est rassurant dans ce que vous nous dites, c'est que vous sortez, vous avez des amis, donc il y a une vie sociale,
oui, oui.
Vous aurez probablement l'occasion de rencontrer quelqu'un également dans la vie réelle et non pas virtuelle.
J'aime pas trop l'occasion, vous savez, moi je préfère le neuf.
Ah, d'accord.
Non, c'était juste un petit aparté. Non, j'ai bien compris ce que vous vouliez me dire. C'est vrai, je peux avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un autre que les sites de rencontre.
Bien sûr.
Ça peut être sympathique aussi. Hein. C'est sympathique. Il y a des gens qui ciblent et qui préfèrent parfois les sites de rencontre parce que si le profil est sincère et vrai, pourquoi pas.
Puis on peut être timide aussi. On est de nature un peu.
Oui,
oui, oui. Enfin, il y a plein de. En tout cas,
oui, moi, je suis pas spécialement timide. Réservé, peut-être, mais pas timide.
Alors, vous avez écouté l'émission hier, manifestement.
Oui, j'ai écouté. J'écoute presque tous les soirs.
Ah, super. Merci beaucoup.
Non, mais c'est parce que ça m'intéresse.
Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça réagit beaucoup au standard. Je vais finir par me dire que le meilleur site de rencontre, c'est la libre antenne d'Europe 1.
Ah bon?
Eh bien, oui, puisqu'il suffit. Que la gente masculine nous dise « Voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, je suis un sentimental, j'ai une peine de cœur. » Pour que, alors c'est formidable, il y ait des numéros de téléphone qui apparaissent. Donc là, vous avez certaines personnes qui aimeraient bien vous rencontrer, mon cher Guillaume.
Ben écoutez, moi je suis prêt, dans un premier temps, à échanger avec ces dites damoiselles.
Voilà.
Dames.
Donc je pense que...
Après...
Alors demain, c'est le thème de la passion. Donc
j'ai vécu une passion, moi j'en ai vécu une passion.
Alors c'est l'occasion de nous en parler
ça
demain, si
souffrir,
vous voulez.
Ça fait souffrir, mais c'est formidable à vivre.
N'est-ce pas? Donc, Donc le thème de demain, c'est la passion. Donc je rappelle que vous pouvez nous joindre, chers auditeurs, au 3921. Guillaume, si vous souhaitez vous-même demain nous rappeler, vous êtes le bienvenu. Oui. Là, en fait, nous allons vous garder au standard, puisque nous avons des numéros de téléphone à vous communiquer.
Eh bien, je vous en remercie, je remercie
fantastique,
les personnes qui sont intervenues. Bah, fantastique, oui, c'est vrai
que
dans le premier temps, c'est fantastique de voir que, on peut, que quelqu'un a l'attrait, n'est-ce pas, pour Guillaume, maintenant, pour ses propos. Maintenant, après, c'est sûr qu'il faut, faut échanger. Je suis quelqu'un de sincère, moi, j'aime beaucoup l'humour, je suis jovial, mais moi, j'ai du plaisir aussi, des activités comme tout un chacun, des loisirs.
Alors...
Je suis un épicurien.
Alors, le meilleur reste à venir. Je vous embrasse.
Oh ben, moi aussi, puis je vous souhaite une bonne continuation.
Merci Guillaume, et donnez-nous de
à
vos
bientôt,
nouvelles.
Sana.
À bientôt.
Je ne manquerai pas. À bientôt,
merci,
Sana.
Au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Bonsoir Anne-Marie.
Oui, bonsoir Sana.
Oh, je vous entends. Je vous entends pas très bien.
Là, vous m'entendez?
Oui.
D'accord.
Comment ça va, Anne-Marie?
Oh, ben, ça va. Ça va. Alors, moi, je voulais parler de... Je fais une thérapie... Enfin, la méthode EMDR. Seulement... j'arrive pas à lui faire confiance complètement.
Alors, vous n'arrivez pas à faire confiance à votre thérapeute? Alors, l'EMDR, est-ce que vous voulez rappeler aux auditeurs en quoi cela consiste?
Eh bien, comme moi, je suis non-voyante, il me met des petits capteurs dans mes mains.
Mmh.
Il le branche et je ne sais pas trop expliquer.
En fait, donc, c'est avec des sons qui passent à droite et à gauche.
À gauche.
Voilà. Et qui vont guider, en fait, vos yeux. Voilà. Et en fait, le mouvement répétitif de droite à gauche a normalement la vertu de pouvoir effacer les traumatismes invisibles. C'est la technique de l'EMDR qui marche très très bien d'ailleurs et qui a été reconnue comme technique vraiment fiable depuis juin 2015 par l'INSERM. Donc c'est vraiment quelque chose de très efficace qui est l'EMDR. Donc, merci. En plus, j'apprends quelque chose parce que je ne savais pas que quand on est non-voyant, on a également la possibilité d'avoir accès à ce type de thérapie.
Peut-être que c'est pas par les yeux, peut-être que... Parce que moi, les petits capteurs, je les ai dans mes mains.
Donc, ça entraîne le cerveau pour aller à droite et à gauche. D'accord.
Oui.
Ok.
À lui faire confiance.
Pour quelle raison, Anne-Marie?
Je sais pas. Pourtant, il a l'air respectueux. Ou c'est la peur, peut-être.
La peur de quoi? Que la relation avec son thérapeute est une relation singulière. C'est quelqu'un à qui on livre un peu sa face cachée, le tout sans jugement. Donc est-ce que au moins vis-à-vis de cela, vous vous sentez à l'aise avec votre thérapeute?
Oui.
Les échanges sont simples. Vous vous sentez écouté? D'accord.
Oui, oui.
Donc, cette peur, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin et nous dire ce que vous ressentez? Enfin, quelle peur exactement? Vous avez peur de quoi?
Bah, vous allez trouver ça. Je supporte pas le bruit d'une cassette.
Le bruit
d'une cassette.
D'une cassette, d'accord. D'accord.
Et l'autre fois, il a presque voulu me faire la touche, toucher cette cassette. Ça, j'ai cru. Et il me disait, mais que, je sais pas, d'un seul coup, j'ai eu peur et je faisais plus confiance. Et il me disait de lui faire confiance, mais j'avais du mal.
D'accord. Donc, c'est plus par rapport au fait peut-être qu'il vous ait un peu bousculé, qu'il ait essayé d'aller plus loin. Oui, voilà. Donc, c'est uniquement par rapport à cet événement-là?
Oui.
D'accord. Sinon, avant, comment ça se passait?
Ah, ça se passait bien.
D'accord. Bon.
Ça se passait bien. Mais peut-être qu'il a voulu aller trop vite. Et Enfin, je le vois après-demain, donc je vais essayer de refaire confiance.
Alors, avant de refaire confiance, ce qui va être important, c'est de lui dire ce que vous avez ressenti suite à cette dernière séance. C'est important, c'est une relation de confiance qui s'installe. Hein. Comme je vous disais, c'est une relation singulière. Donc, dites-lui ce que vous avez ressenti lors de la dernière séance. C'est lui qui va réajuster, qui va repositionner le curseur pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux et que ça ne se renouvelle pas, ou alors qu'il y a un petit peu plus progressivement peut-être, hein, voyez. Mais c'est important de lui dire que vous avez ressenti de la peur.
Oui.
Très important pour la suite. Surtout qu'il a l'air, plutôt bien de ce que vous en dites.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, je vais lui dire que toute la semaine, j'étais angoissée.
Eh oui.
Par rapport à la prochaine séance.
Voilà, donc normalement, effectivement, il n'y a pas de... Le principe d'aller voir son thérapeute, c'est de se sentir toujours un petit peu mieux après, au fur et à mesure. C'est un travail. Et puis ensuite, il se peut très bien qu'avec ces angoisses qui remontent, on puisse encore mieux travailler. Donc c'est pour cette raison que c'est important que vous puissiez échanger véritablement sur ce que vous avez ressenti. Et si certaines angoisses sont remontées, c'est peut-être aussi là-dessus que votre thérapeute peut vraiment vous aider.
Oui, c'est vrai. D'accord.
Donc ce qui est important, c'est de garder cette communication et surtout, surtout, dites les choses. Dites-les.
Je vais dire que pour moi, il était trop vite.
Voilà. Dites-lui, vous avez été trop vite. Très bien. Et en même temps, expliquez-lui ce qui s'est passé. Hein?
Oui. D'accord. D'accord.
Bon. Anne-Marie.
Oui.
Je compte sur vous pour nous rappeler.
Oui.
D'accord, par la suite, donnez-nous de vos nouvelles. J'espère que ça vous a vraiment accompagné. Vous vouliez peut-être parler d'autre chose?
De ma petite sœur qui est bipolaire, c'est pas toujours facile. Enfin, j'essaie de... Elle aussi, elle m'angoisse parce que elle me sort des trucs. C'est-à-dire qu'on a des problèmes avec la famille, elle et moi.
Ouais.
Avec les parents, donc. Enfin, je vais l'avoir demain. Je vais essayer de la prendre comme elle est, de tenir le coup avec elle. Parce que bon, des fois, elle part en crise.
Elle est prise en charge pour sa bipolarité?
Oui.
Et ça s'est déclaré il y a longtemps?
Elle avait 16 ans.
Ah oui.
Peut-être même avant, mais moi je l'ai vu sa première crise quand elle avait 16 ans.
Mmh.
Parce qu'on a 10 ans de différence. Elle est plus jeune que moi.
Elle est plus jeune que vous, d'accord.
Oui.
Et est-ce que sa bipolarité a un lien avec
le traumatisme que vous-même vous traversez ?
Oh, certainement. Certainement, parce que, par exemple, il y a, quand elle, l'autre fois, il y a très longtemps, elle m'a dit, tu as un paillasson sur lequel on essuie ses pieds sur toi.
Ah oui, c'est violent.
Oui. Quand elle est en crise, elle me sort des choses, mais bon...
Mais vous savez qu'elle est en crise à ce moment-là.
Ah oui, parce que bon, c'est pas des choses comme ça. Mais je n'en veux pas. Mais bon, c'est pas toujours facile à accepter.
Oui. Je comprends. Et vous êtes mariée, Anne-Marie ?
Vous non. Avez...
Non. Des enfants ?
Non.
Non plus ?
Non plus.
Vous, c'est une volonté de votre part ou...
Ben, les enfants, j'aurais jamais pu en avoir parce que j'aurais fait des fausses couches sans arrêt.
Pour quelle raison ?
Parce que il fallait que je reste. J'en ai fait une à 3 mois.
D'accord.
Et après, il aurait fallu que je tienne 9 mois couchée. Et ma soeur n'a pas d'enfant non plus. Mais elle a des animaux.
Elle a des animaux. D'accord. Et vous en avez ? Vous en avez aussi des animaux ?
Non, parce que moi, je suis asthmatique.
Ah oui, d'accord.
J'ai des gros problèmes respiratoires.
Donc vous avez opté pour ne pas avoir d'animaux ?
Ben, j'aime beaucoup les animaux, mais pas trop proche d'eux. Un petit peu comme ça, de temps en temps, mais c'est tout.
Et vous sortez ?
Oui.
D'accord. Des amis, une vie sociale
Ben, j'ai des amis. Oui, elle, par contre, l'autre fois, elle m'a dit qu'elle est restée 3 semaines sans sortir.
Sans sortir 3 semaines ?
Oui.
Oui.
Elle dit que des fois, elle était mieux. Elle a un compagnon, mais ils veulent se séparer parce qu'ils s'entendent plus.
Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ? D'accord.
Mais lui, il ne peut pas la mettre dehors comme ça, parce qu'il veut la mettre dehors, mais seulement, je crois qu'ils sont pactés, donc je ne sais pas trop. Je vais voir ça avec elle demain.
Oui.
Mais ce qui m'angoisse, c'est pas lui poser trop de questions, parce qu'elle se vexe vite.
Et en fait, est-ce que c'est justement un des facteurs qui a pu faire que cette semaine, vous étiez un peu plus angoissée que d'habitude ?
Ah, peut-être.
Aussi ? Vous la voyez souvent, votre sœur ?
Non, je ne l'ai pas vue de l'année encore.
Ah, d'accord.
Parce qu'elle habite dans l'Oise.
D'accord.
Alors, on a 80 km de... Elle est à 80 km.
D'accord. Et donc là, en ce moment, elle est...
Elle est proche de moi.
Ouais.
Oui.
Oui, vous vous appelez souvent ?
Oui. On s'appelle souvent et elle parle des parents. Moi, ça... Enfin, je sais pas quoi penser. Je suis pas du côté de mes parents parce que moi, ils m'ont fait du mal aussi, mes parents. Mais ma sœur, ce qu'elle dit, c'est fort. Enfin.
Vous voulez en dire plus ou pas ?
Bah, elle a subi des traumatismes par rapport à ma maman, qui l'a oubliée dans une armoire, dans un magasin, dans le métro, elle est descendue alors qu'il ne fallait pas qu'elle descende. Il y a des choses...
Qui ne sont pas normales quand on est...
Oui.
Ouais.
Oui. Et moi, mon père me battait à coup de ceinture. Oui, il ne comprenait pas l'handicap, donc il me frappait avec la ceinture.
Ah oui.
Oui, Anne-Marie. Je pense vraiment qu'effectivement, là, l'angoisse que vous avez pu ressentir aussi, c'est peut-être du fait que là, vous allez voir votre sœur demain, qu'elle va vous parler de choses qui ne sont pas forcément évidentes également pour vous, puisque parler des parents, c'est peut-être faire remonter aussi des choses pour vous qui sont difficiles à entendre, par rapport à des choses qui se sont passées. Revoir votre sœur, c'est aussi une façon, enfin, c'est aussi se retrouver, replonger dans un passé où manifestement vous faites tout pour vous en sortir.
Oui.
Donc ça, c'est peut-être pour ça aussi. Même si vous l'avez au téléphone, mais quand on voit les personnes, c'est encore différent.
Ah oui.
Enfin, quand on est près d'eux, surtout.
Si je vais le dire aussi, là. Enfin, j'ai vu ma sœur et... Je vais lui dire, il va comprendre. Je pense qu'il va comprendre. Oui. Je vous en dirai plus la prochaine fois.
Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, du coup, pour demain?
Et bah, un bon déjeuner.
Ah. Voilà, pour mettre des choses positives. Bon déjeuner. Donc, vous cuisinez bien?
Oh non, moi, je cuisine pas trop, non, mais... Oh non, c'est pas trop mon truc. Mais, je fais des gâteaux. J'aime bien faire de la pâtisserie. Peut-être que je ferai un gâteau demain matin. Oui, puis elle est gourmande, ma petite sœur. Ça, c'est bien.
Oui.
Donc, voilà. Donc, un bon déjeuner, une bonne discussion.
Oui.
Partir sur le positif. Moi, je vais essayer d'être positive.
Ouais. D'accord. Anne-Marie, en tout cas, j'espère que tout va bien se passer avec votre thérapeute quand vous allez le revoir. J'espère qu'avec votre sœur également, vous allez passer un très, 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 très bon moment. Vraiment.
Oui.
Et tenez-nous au courant pour la suite. D'accord ?
D'accord, ça va, merci beaucoup.
Merci à vous, à très bientôt.
À bientôt.
Je vous embrasse, au revoir.
Moi aussi, au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Alors, en fait, le thème de ce soir, c'est là, enfin demain, pardon, c'est, quoique c'est ce soir, puisqu'il est déjà minuit 49, donc c'est ce soir le thème de la passion. Et en fait, pour nous donner un petit avant-goût, nous avons Claude au téléphone. Claude ?
Oui, bonjour Sana.
Comment ça va ?
Merci. Écoutez, je voulais juste me permettre en préambule, quand j'ai entendu votre voix vendredi soir, je me suis dit c'est avec vous que je voulais parler.
Oh, c'est gentil. Merci Claude.
Je vous jure, franchement, pourtant je suis un fidèle de votre émission, et effectivement, quand je vous ai entendu vendredi, ça tombait sous le signe.
Ah bah écoutez, ça me touche beaucoup. Merci infiniment, vraiment.
Oui, si, je vous jure.
Bon, ben je vous crois. La preuve, vous êtes là.
Oui, et je voulais remercier aussi votre collaborateur d'une gentillesse incroyable.
Ah, ils sont adorables, ils sont au top.
Ah,
je confirme.
Ça, je peux vous le dire.
Je confirme, oui. Bon, ils sont tout contents, là, je les vois, ils sont contents.
Non, mais voilà.
Alors, Claude, dites-nous.
Alors, moi, je vous téléphone parce que j'ai une passion qui m'a coûté cher. Au niveau de l'action, et voilà. J'ai une passion pour un artiste disparu, Claude François.
D'accord. Claude François.
Ouais. Et je suis très, très en colère parce que vis-à-vis des médias qui le traitent, mais comme on peut pas traiter un être humain, mais bon, comme dit, je suis là aussi pour le défendre et le remettre dans son bon droit. Mais c'est vrai que c'est ma passion.
Alors Claude, c'est venu comment, oui, cette passion pour Claude François ?
Écoutez, donc j'ai 51 ans, je peux pas vous dire, j'étais jeune et j'ai dans les années 70, j'ai entendu la chanson Héloïse, et c'est une chanson comme une autre. Et puis, je me suis toujours dit, je veux un disque de Claude François. Et je ne le connaissais pas, je pensais que c'était une image. Je ne peux pas vous imaginer et vous dire. Et puis, ma maman m'avait offert un disque.
Ouais.
Et c'est parti. Et c'est parti. Et là, c'est parti. J'ai commencé à collectionner, comme un enfant. J'ai collectionné, découpé des images, à collectionner les disques,
bien
posters, des vêtements, et tout et tout. Je suis monté en gamme.
Ouais.
Voilà.
Au fur et à mesure.
Ouais, au fur et à mesure. Et le 11 mars, malheureusement, c'est le jour de son voyage, parce que pour moi, c'est pas un départ. Je me dis que quelque part, il nous a laissé un tel héritage musical et une telle force que, maintenant, je lui ai pardonné. Parce que j'ai aussi fait mon deuil, hein. On s'est un peu égaré, lui et moi, en 86, pendant 3-4 mois. Je ne l'écoutais plus parce que j'avais pas fait mon deuil, moi, je veux dire.
Ouais.
Et puis, je vous rassure tout de suite, je suis cartésien, je travaille, je suis croyant, je suis catholique, je suis très croyant,
ouais.
Mais j'ai le droit d'avoir d'aimer Claude. Et comment vous dire, c'est quelque chose qui m'habite. Pour vous dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai retrouvé du travail, je me rappellerai, en 1995, un 11 mars.
Ouais, waouh, c'est précis.
Non mais c'est invraisemblable. Et moi, je sais que je peux vous dire que l'année dernière, je peux vous dire d'où je suis de Strasbourg.
Ouais.
L'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir à mon domicile, pour une émission de télévision régionale, l'ancienne Miss France Delphine Vespizère.
Oui, la magnifique Delphine Vespizère.
Ah oui,
ouais.
Elle n'est pas que très belle, très intelligente. Et humainement, une femme de grande classe.
Bon.
Une femme de grande classe. Et elle est venue, elle m'a dit quelque chose qui m'a perturbé. Vous savez ce qu'elle me dit ? Dans la conversation, elle me disait « Son âme tourne autour de nous ». Et moi, j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup touché.
Ouais.
Ça m'a beaucoup touché. Et comment vous dire, quand j'entends des gens qui disent « Oui, mais bon, les fans ou ci ou ça, on est en manque de tendresse, on est ceci, on est cela ». C'est une passion. Moi, je préfère être passionné par ça, par un artiste comme Claude, que d'être passionné par la drogue, où il y a des gens qui se suicident. Moi, c'est sain. C'est quelque chose qui est sain.
Oui, oui, bien sûr.
Je vais vous faire une petite confidence. Ouais, mais cette confidence-là, j'aime pas la faire parce que ça m'a coûté cher.
Ah.
J'ai vécu une première relation de couple.
Ouais.
Avec une jeune fille dont la famille était quasiment tous fanatiques de Johnny Hallyday. Alors vous imaginez, les tours de table et les assiettes qui ont volé. Oui, vous pouvez dire. Et ça m'a coûté mon couple, ouais.
Mon couple. Non, je souriais parce que j'imaginais peut-être la battle. Enfin,
c'est le rapport délétère.
Le clan.
Ah oui, mais parce que je vous dis, si on veut imaginer la situation, c'est comme un supporter de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas un supporter, n'ira pas, voilà, chanter avec le supporter
PSG.
Du PSG.
Voilà.
Donc, moi, je suis, ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher, ça. Mais, et depuis, quand j'ai rencontré ma deuxième, ma future femme, que je remercie encore parce que, elle m'a aussi beaucoup aidé dans ma collection, la première chose que j'ai demandé, est-ce que tu aimes Claude ? Ça te dérange que je collectionne Claude ? Elle m'a dit non. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas fait de pas avec elle. C'est fou de dire ça.
Ça n'est absolument pas fou. C'est votre passion, non. Ça prend de la place.
Mais,
et c'est normal. C'est tout à fait légitime de prévenir, bien sûr, Claude.
Mais Sana, je vous rassure, je ne suis pas mégalo. Je suis cartésien. J'écoute Claude. Il m'inspire. Je vais vous dire une chose et je l'ai fait remarquer même par mes enfants qui en témoignent. Je peux être en voiture. J'ai un état d'esprit qui est peut-être un petit peu rabougri. Je suis pas bien. Et je change de station. Je tombe invariablement sur une chanson qui correspond à l'état où je suis.
Ah oui.
Et moi, je sais que je peux pas m'en passer. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, je ne défends pas l'indéfendable, mais comme on l'a traité de choses qui sont horribles, moi, je veux dire et remettre les choses dans leur contexte. 40 ans après, Claude reste un phénomène sociologique,
ouais.
Parce que il a révolutionné le monde de la variété quelque part. Et quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau des artistes, Claude ne se serait jamais permis d'avoir des tenues excentriques. Il était toujours propre, tiré à quatre épingles. Il aimait son public. Côté, il a donné sa vie pour le public. Et nous, en tant que fans, on est là aussi pour continuer à le faire vivre, parce qu'il nous a laissé quelque chose. Même si quelque part, je lui en veux un peu de ne pas nous avoir dit au revoir. C'est clair.
Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer, puisque c'était peut-être votre rêve ou votre envie de...
Vous savez quoi, Sana, vous êtes invraisemblable. Vous savez quoi, je me dis tous les jours, mon fantasme, c'est un fantasme, hein, c'est utopique. J'aurais aimé vivre en couple avec une femme. Je ne sais pas si ça aurait été, est-ce qu'on se serait entendu, est-ce que, voilà, quand on a la même passion, parce qu'avec ma femme, on n'a pas la même passion, mais ouais. Je veux dire, mais il y a tellement un tel respect.
Ah oui,
par contre, pour lui, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais pu être balayeur, faire la vaisselle, n'importe quoi. Pourvu que je puisse être près de cet homme-là, parce que, comment vous dire, il dégageait quelque chose humainement, il dégageait au niveau musical, il dégageait quelque chose qui fait que il est encore bien là. Côté, quand vous regardez là, on voit bien l'artiste M. Pokora, pour qui je n'ai pas de, voilà, il a repris ses chansons et ça donne toujours de l'envie aux gens. Donc
bah oui,
si vous voulez, Claude était transgénérationnel, il passait dans toutes
absolument.
Les familles. Il est passé, après qu'on, je vous dis franchement, après qu'on aime, on n'aime pas. Moi, je ne vous ai jamais dit qu'il chantait du, on ne lui demandait pas ça. Il chantait du rêve, il faisait vivre les gens, il faisait rêver les gens. Et écoutez, est-ce que 40 ans après, on aurait pu croire qu'il serait encore là, malgré le départ qu'il nous a malheureusement imposé? Mais non. Même lui, je pense qu'il ne l'aurait pas pensé.
C'est vrai.
Et quand vous écoutez, et quand on écoute bien ses chansons, je dirais les chansons, il a des chansons tellement à fleur de peau. Écoutez, il y a parfois des messages qui sont sibyllines, qui sont marquants. Et moi, je voulais, avant que ça, votre émission termine, je voulais vous remercier du fond du cœur de m'avoir donné l'occasion de témoigner l'amour que j'ai et là, pour cet homme-là. Et je peux vous dire que pour moi, c'est un troisième poumon. Ah, ça, je peux vous garantir. Ah ouais, je vais vous dire, vous allez me dire, je suis peut-être fou, mais si je sens, par exemple, que chez quelqu'un de la famille, et que je sens qu'ils ne l'aiment pas, ou qu'ils, je me sens pas bien.
Ah oui, oui.
Je ne
oui,
me sens
pas. Vous défendez mais parce qu'il faut corps et âme.
Ah oui, mais ouais. Attendez, je défends ce qui est défendable. Je n'ai pas dit que j'aurais défendu n'importe quoi. Mais je veux dire, il a quand même amené quelque chose d'incroyable au même titre que monsieur Hallyday, ou je ne sais, voilà. Mais je veux dire, c'était quand même une grosse locomotive. Il a été décrié par le parisianisme à l'époque, mais tous les gens qui l'ont critiqué, les bons penseurs, ben voilà, maintenant reconnaissent ce qu'il a fait. Par contre, une petite truc, je voulais vous dire que votre station j'avais porté réclamation il y a 3-4 ans, parce qu'un présentateur, monsieur Hanouna, avec des autres présentateurs, avait fait une émission de moquerie sur Claude. Et ça, j'ai trouvé ça très lamentable en imitant une chanson de Claude François avec des bruits d'électricité. J'ai trouvé ça très, très petit. Et voilà.
Merci, bon, Claude. Donc, vous avez entendu. Je vous dis à très bientôt.
Écoutez, mais moi, je vous dis du fond du cœur merci.
Merci. Merci.
Bonsoir. Au revoir, Sana.
Vous écoutez Europe 1. Il est 1h.